7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à l'occasion du Mondial de l'automobile à Paris, qui nous vaut d'ailleurs pas mal d'embouteillages dans l'ouest de la capitale, une question centrale. La voiture est-elle toujours un signe extérieur de richesse ou du moins de réussite? Certes, le marché européen s'essouffle globalement depuis des années, mais la voiture est-elle pour autant démodée? Et si c'était le cas, pourquoi les cadres très supérieurs dans les entreprises négocient dur comme fer un véhicule de fonction à la hauteur de leur poste? Si la voiture n'est plus forcément un signe extérieur de richesse, elle est en tout cas un signe de contradiction intérieure. Du nord en décroissance au sud émergent, c'est le plus qui domine. Et nous allons examiner avec nos invités les plaques tectoniques de l'image de la voiture. Flavien Neuvy, vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Bonjour.
Bonjour.
Et en plus, vous avez passé une partie de votre vie sur le continent africain. Vous publiez une étude sur 14 pays. Dans les 14 pays, il n'y a pas de pays africain.
C'est l'Afrique du Sud.
Voilà. Les 14 pays qui tirent la croissance mondiale de l'achat d'automobiles neuves. Bruno Marsloff, quant à vous, vous êtes sociologue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la mobilité, directeur du cabinet Chronos. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend vos témoignages. Vous vous êtes défoulé sur Facebook, soyez pertinent au téléphone. Racontez-nous des histoires de voitures, de pouvoir, de richesse ou d'illusions perdues. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et pour le clin d'œil aux voisines, reportage en fin d'émission sur une femme carrossière. Oui, ça existe et en plus, elle sait parler. Je vous lis quelques messages. Très nombreux messages postés sur le fil Facebook, une petite sélection. Régis à Cotonou au Bénin nous dit « Avoir une voiture, c'est un grand signe d'aisance, peu importe la marque et le modèle. Pourtant, les voitures avec lesquelles nous roulons ici sont à 90% des France au revoir. » Vous connaissez l'expression. Flavien Neuvy, France au revoir, c'est-à-dire des véhicules d'occasion. Ils ont 10 ans d'âge, complètement amortis en Europe. Et c'est avec eux que nous faisons les malins ici. El Malik à Dakar au Sénégal. Bah, ici au Sénégal, les jeunes n'hésitent pas à recourir à la location de voiture pour séduire certaines filles assez matérialistes, mais en même temps, il faut reconnaître que la voiture est plus accessible aujourd'hui et qu'elle tend du coup à devenir rien d'autre qu'un moyen de locomotion. La location de voiture, ceci dit, ça commence à marcher aussi en Europe, en France. Hein.
Oui, absolument, et même la location de voiture entre particuliers, c'est-à-dire que les gens qui ont leur voiture, qui ne l'utilisent pas très souvent en fait dans la journée puisqu'elle reste le plus souvent arrêtée, eh ben profite de ce temps-là pour la mettre en location, ouais, et récupérer un peu d'argent.
Sauf qu'en général, c'est pas pour s'afficher, c'est plutôt parce qu'on a besoin d'une voiture pour aller en dehors d'une grande ville.
Absolument.
Al-Mustapha en Égypte nous dit, ici au Caire, la voiture n'est qu'un moyen de déplacement, mais évidemment, il y a toujours les voitures de marque. Dorel nous raconte que quand il était à Brazzaville, il croyait qu'avoir une voiture était un signe de richesse, car les voitures coûtent extrêmement cher au Congo-Brazzaville. Mais une fois arrivé en Occident, nous dit Dorel, j'ai compris que c'était juste un moyen de transport. Est-ce si simple? Pas sûr, hein?
Bah, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui se passe dans les jeunes générations, en tout cas en France, dans des pays européens et même de l'autre côté de l'Atlantique, avec la génération des blablacars et autres partages de covoiturage. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler.
Oui, la génération des blablacars, on va en parler. Sadou à Niamey, au Niger. En Europe, le problème, c'est pas d'avoir un véhicule, c'est de le garer. Alors qu'en Afrique, le problème, c'est la route et l'entretien. C'est bien résumé, non? Peut-être.
Oui, c'est très bien résumé. C'est vrai que dans les grandes métropoles, quel que soit d'ailleurs le continent, les problèmes de circulation se posent vraiment avec beaucoup d'acuité. Mais c'est vrai que selon les pays, selon les zones géographiques,
le parking,
les problèmes sont pas les mêmes.
Bernard à Guarapari, dans l'état d'Espirito Santo, au Brésil, c'était un rêve, mais aujourd'hui, ça fait partie de l'objectif d'un Brésilien d'avoir une voiture. Les villes ont beaucoup grandi, nous dit Bernard, mais les moyens de transport n'ont pas évolué. Et dans les grandes villes brésiliennes, pas de métro, pas de taxi collectif, pas de bus confortable. C'est insupportable, nous dit Bernard. Alors, on n'a même pas besoin de penser si on préfère la voiture ou pas. C'est essentiel aujourd'hui. Bruno Marsloff.
Oui, du Brésil, c'est assez intéressant parce que, souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, au mois de juin de l'année dernière, 1 million de personnes sont descendues dans la rue à la suite de l'augmentation des tickets de transport de 7 centimes. Et en fait, Sao Paulo, où ça s'est passé, est quand même un témoignage des limites du système automobile comme des limites du système de mobilité en général, puisque, en fait, on est à cette caricature où les cadres exécutifs se trimballent d'un d'un rendez-vous à un autre en hélicoptère, du sommet d'un immeuble au sommet d'un autre immeuble, et que la moyenne du temps de déplacement des travailleurs dans l'agglomération de Sao Paulo, c'est 2h30.
Ouais.
Donc une moyenne qui est considérable.
Il faut dire qu'il y a 19 millions d'habitants, c'est tentaculaire.
Oui, mais en même temps, comment répond-on à ça?
Et puis c'est pas avec un plein d'essence assez bon marché qu'on règle le problème.
Absolument.
C'est clair. Vous nous appelez les voisins et les voisines. La voiture est-elle encore un signe extérieur de richesse, de réussite, de pouvoir, que sais-je? Appelez-nous pour nous en parler. Le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Flavien Neuvy, le mondial de l'automobile, c'est tous les deux ans à Paris. En 2012, 1 200 000 visiteurs. Là, on ne sait pas encore, c'est pas fini. Quand même.
Oui, c'est d'ailleurs, ça illustre assez bien le paradoxe de la relation qu'on entretient avec sa voiture, au moins en France et en Europe. C'est-à-dire que la place de la voiture a reculé dans nos sociétés, elle est devenue beaucoup plus utilitariste, parce que la contrainte financière est très importante, il y a eu la crise, le pouvoir d'achat qui a plutôt baissé, et donc on a pris un peu de distance par rapport à sa voiture, et en même temps, elle fait toujours rêver. Et quand on expose des belles voitures, et c'est le cas en ce moment avec le mondial de l'automobile, eh ben, vous avez plus d'un million de personnes qui vont venir rêver devant ces voitures, qui pour la plupart ne peuvent pas se payer parce qu'il y a souvent des voitures qui sont soit des concept cars, soit des voitures très chères, mais elle fait toujours rêver. Donc c'est vrai qu'on a une relation qui est un petit peu paradoxale.
Chez les 7 milliards de voisins, qui sont aujourd'hui ceux qui continuent d'acheter des voitures à la lumière de votre étude qui concerne 14 pays, les 14 locomotives du marché de l'achat de voitures neuves?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va battre un record de vente de voitures neuves dans le monde cette année. 85 millions de voitures, on n'en aura jamais vendu autant, et l'année prochaine, en 2015, on en vendra 88 millions.
Ouais.
Donc
et vous,
ça progresse.
Et vous prévoyez même que 2020... on pourrait en vendre 100 millions.
Oui, absolument. Alors c'est vrai que la croissance spectaculaire de ces dernières années et la croissance à venir sera tirée essentiellement par le marché chinois. Au début des années 2000, en 2000 pour être précis, le marché chinois c'était 700 000 voitures neuves par an. Cette année c'est 20 millions. Et dans 5 ans, ce sera 30 millions. Donc le marché chinois a littéralement explosé. Et donc malgré ça, malgré le marché chinois qui progresse, on a le marché américain qui a retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Le marché européen qui est toujours extrêmement faible, loin des niveaux d'avant-crise. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est une donnée qui est vraiment incontestable, c'est que le niveau de développement de l'industrie automobile, enfin le niveau des ventes, dépend essentiellement, le critère numéro un, du niveau de vie du pays. C'est-à-dire que plus le niveau de vie augmente dans un pays, plus le nombre de ménages qui ont une voiture augmente. Et donc, c'est pour ça que les pays émergents, à l'avenir, vont tirer la croissance.
Ouais, même si on vit de plus en plus en ville, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Néanmoins, absence de transport public, donc nécessité d'avoir une voiture pour beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les acheteurs du monde entier disent en gros la même chose. Les deux critères pour acheter une voiture, c'est...
le prix et la consommation de carburant. C'est vraiment des critères universels. Alors, il y a en Chine, les Chinois, c'est un petit peu particulier parce que eux, leur critère numéro un, c'est la sécurité et la fiabilité des voitures, parce que ceux qui achètent une voiture neuve en Chine, c'est plutôt la classe aisée. Et donc, le prix, c'est pas vraiment le sujet. Ils ont les moyens d'acheter une voiture et donc c'est pas le sujet. C'est plutôt la fiabilité de la voiture. Ce sont des critères universels. Alors, ça veut pas dire que le design, la marque ne compte pas.
C'est ce que j'allais dire. L'image, le bling-bling, tout ça. Le rêve.
C'est toujours un critère. Le design d'une voiture, par exemple, c'est toujours un critère, mais ça vient après le prix et après la consommation de carburant. Il faut quand même dire une chose, c'est que les dépenses automobiles, ce qu'on dépense pour sa voiture, à la fois pour l'achat et l'utilisation de la voiture, c'est beaucoup d'argent. C'est environ 15% des dépenses en Europe et dans les pays émergents, on a pris l'exemple de l'Afrique du Sud, on est au-delà de 20%, ça veut dire que ça pèse très lourd.
Et en Europe, que représente la voiture? Alors je précise que vous travaillez pour l'Observatoire Automobile CTLM, qui est sous la tutelle d'un organisme de... c'est un organisme de crédit à la consommation, CTLM, sous la tutelle de BNP Paribas. Donc évidemment, vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est d'observer le marché, l'achat, l'emprunt, combien on emprunte pour acheter une voiture, etc. Où est-ce qu'on en est en Europe? Qu'est-ce que ça représente finalement la voiture en dehors des difficultés économiques et du contexte de crise?
Ça représente, quand on regarde aujourd'hui le taux d'effort à l'achat, c'est-à-dire le nombre d'années de salaire qu'il faut mettre sur la table pour acheter une voiture moyenne de gamme, en Europe c'est à peu près une demi-année de salaire. Voilà, il faut mettre la moitié. Et quand on regarde en Chine, c'est 5 ans de salaire. En Afrique du Sud, c'est 3 ans de salaire moyen. Ça veut dire que le taux d'effort à l'achat est très différent selon qu'on se situe dans un pays en voie de développement ou en Europe. Le rapport entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, c'est de 1 à 13. L'effort est 13 fois plus important pour un Chinois pour acheter une voiture neuve.
5 ans de salaire en Chine, 6 salaires.
6 mois de salaire.
C'est ça, 6 salaires en Europe. Est-ce bien raisonnable tout cela, Bruno Marsloff?
On vient quand même d'une situation qui est celle où, pendant un siècle, la voiture s'est imposée, a fabriqué le territoire, a fabriqué la ville, a fabriqué le quotidien, s'est complètement imposée dans nos organisations de vie et est devenue consubstantielle, en fait, de ce qui se passe. Et puis, ce modèle a produit un certain nombre de choses, la liberté d'aller et de venir. On a découvert la distance, on a découvert la mobilité. Au passage, on a aussi découvert le statut social associé à la voiture, et puis on a découvert les limites. On a découvert toute une série de limites, les congestions, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le même modèle qui est en train de se reproduire ailleurs, à des vitesses beaucoup plus rapides, hein, que ça se passe en Chine, que ça se passe au Brésil ou que ça se passe en Afrique. C'est le même phénomène qui est en train de se passer et qui va rencontrer les mêmes obstacles.
Embouteillage, et puis à terme, problème sur l'écologie, le climat, etc.
Absolument. Mmh. Hier, on faisait état de l'automne à Pékin, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Boris Vian, mais c'est beaucoup plus plus grave là, parce qu'il s'agit en fait d'une pollution qui est absolument telle qu'on est obligé, les autorités sont obligées de réduire l'usage de la voiture. Donc on se heurte très très vite à des impasses, on se heurte très très vite à des modèles. Et dans cette trajectoire, en fait, en Europe, en France aussi, on est en train d'essayer de trouver des issues, des solutions qui vont permettre de continuer cette consommation automobile, mais autrement. Et c'est cette fameuse génération Blablacar que j'évoquais tout à l'heure, entre autres.
La voiture est-elle quand même encore un signe extérieur de richesse pour vous ou pas, en tant que sociologue ?
Si on regarde le comportement des jeunes, certainement pas. En tout cas, pour une grande part d'entre eux, c'est plus quelque chose qui les fait vibrer.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter une, il faut dire aussi.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter une, mais
qui continuent. Regarde les taux de chômage des jeunes en Europe.
Oui, mais du coup, ça n'est plus un rêve dans leur représentation.
Parce qu'il est inaccessible ou pas ?
Non, parce que c'est plus dans leur scope. Ils ont ils se fabriquent d'autres rêves. Donc, quand vous avez besoin de vous déplacer, vous trouverez toujours une solution, et notamment en partage automobile, mais la possession, ça suppose toute une série d'éléments qui fait que le rêve, il a disparu.
Alors, signe de réussite contre Génération Blablacar, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. La voiture est morte, vive la voiture. Don't you know you're my making model, my only problem. Pieces to my engine like a vaulted auction. Never been stopped in my tracks so often. Living this close to free, you were made for me. Yeah. And if you take the lead, you'd be mine already now. I had you from the get down. Don't you know you're my making model, my only problem. Pieces to my broken heart, a fallen option. Never been stopped in my tracks so often. Living this close to free, you were made for me. St. John's, Make and Model, chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle de la voiture aujourd'hui à l'occasion du mondial de l'automobile qui se déroule à Paris, qui attire d'ailleurs des visiteurs du monde entier tous les deux ans dans la capitale française. La voiture est-elle encore aujourd'hui un signe de richesse, de réussite ? Vous nous appelez pour nous en parler au 33 1 84 22 71 71. Y a-t-il des générations qui s'affrontent, des modèles qui s'affrontent, des rêves qui s'affrontent ? On est en ligne avec Stech qui a 28 ans, qui est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Bonjour Stech.
Bonjour les 7 familles, 7 milliards de voisins.
Stech,
par le monde.
On vous écoute. Alors, vous êtes informaticien, vous avez 28 ans. Vous n'avez pas de voiture, mais oula, il y a beaucoup de monde derrière vous, Stech. Il faut absolument vous mettre dans un endroit calme ou faire de grands signes à ceux qui vous entourent, parce que vous êtes bien à l'antenne en direct sur RFI. Stech, votre oncle vous prête une voiture, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. De temps en temps, mon oncle met à la disposition une voiture qui me permet de faire des courses. Mais tout autour de moi, les gens pensent que j'ai assez d'argent. dès que je roule dans la voiture. Et je suis obligé d'aller même au boulot par de moyens de transport en commun parce que autour de moi, la voiture, c'est encore un luxe.
Mais attendez, si votre oncle vous paye une voiture, pourquoi vous prenez les transports en commun pour aller travailler s'il vous prête une voiture?
Mais en fait, il me prête une voiture, mais c'est que le milieu qui monte, c'est que tout le monde pense que la voiture m'appartient et que je ne peux pas être fauché, par exemple. Je suis obligé de temps à autre d'utiliser le transport en commun comme tout le monde. À ce moment-là, on est pratiquement au même pied d'égalité.
Et alors, comment vous vivez cette double vie, finalement, Stesh? C'est bien parce qu'on entend les klaxons derrière vous.
Oui, assez difficile avec ses amis qui pensent que, bon, la voiture m'appartient. Quand même, tu dis que j'ai pas assez d'argent, il te dit, il refuse. Hein. Les grandes sorties, c'est toi et c'est toi qui supportes tout parce que toi, tu as le véhicule. Et c'est assez difficile parfois de vivre comme ça.
Mais c'est une voiture en très bon état, une belle voiture.
Ouais, on peut dire une Hyundai RAV4, donc c'est assez une belle voiture qui met au top.
Qui met au top, c'est ça. Donc vous faites ce petit plaisir-là quand vous l'empruntez, et puis le reste du temps, vous redevenez un homme normal, c'est cela un peu?
Voilà, c'est le mieux d'être un homme normal, parce que si vous utilisez la voiture tous les jours, vous êtes privé de beaucoup de choses et ça crée quelques jalousies tout autour de vous, parce que les gens, vous n'êtes plus au même diapason que les autres. Ils pensent que vous êtes supérieur à eux, que vous avez une voiture, vous avez une autre classe, une autre façon de vivre, alors que vous êtes les mêmes. Mais ils oublient que c'est un moyen de transport, juste.
Mais vous dites ça autour de vous, je suis sûre que vos voisins rêveraient d'avoir un oncle qui leur prête une voiture dès qu'ils en ont besoin.
Ah, ça c'est sûr. C'est le rêve de tout le Congolais, tout jeune Brazzaville qui veut rouler dans une voiture maintenant.
Merci pour ce témoignage, Stesh. Flavien Nevy, vous souhaitez réagir?
Oui, c'est un témoignage qui est très intéressant, en fait, parce que il illustre parfaitement le décalage qu'il peut y avoir, la différence qu'il peut y avoir entre, un pays qui est en train de, petit à petit, de se développer sur le plan de la motorisation, plus de voitures sur les routes, et en Europe. Alors, nous, on a posé une question dans notre étude pour savoir si la voiture, au fond, était considérée comme un objet de rêve et de convoitise. Dans les pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, les réponses sont positives entre 75 et 80% des cas, donc pratiquement 8 personnes sur 10 nous disent oui, c'est un objet de rêve, de convoitise, exactement les témoignages que l'on vient d'entendre. En Europe, on est entre 35 et 45%, donc on voit bien qu'il y a un écart considérable.
Ouais. En Afrique, c'est toujours 1-4-4 sinon rien, ou pas?
C'est toujours un petit peu quand même si les choses évoluent.
Bon,
c'est vrai
là,
que ça
j'ai pas compris le modèle qui était donné. J'ai compris la marque, mais
c'est à peu près la même chose.
Ouais, c'est-à-dire
voilà, ça reste. C'est très important. Et c'est vrai que la qualité des infrastructures routières est absolument déterminante pour savoir quels sont le type de véhicules que l'on peut vendre.
Bruno Marsloff.
Mais la qualité et la capacité aussi, parce que c'est aussi ça une des autres limites, c'est que on ne peut pas rajouter autant d'infrastructures qu'on appellerait la taille du parc automobile. Donc c'est là objectivement où on se retrouve avec une difficulté factuelle qui est celle des congestions d'ailleurs que nous acceptons dans tous nos pays de façon assez évidente depuis des dizaines d'années et comme si ça faisait partie du système.
Dans les pays développés, je pense à l'Europe en particulier, Bruno Marsloff, vous nous le disiez, les jeunes ont un autre rêve et la voiture est écologique, alors ça pourrait faire partie de ce rêve là où on a
je pense que leur premier rêve c'est d'abord de continuer à se mouvoir, d'accéder à cette liberté d'aller et de venir n'importe où, et que la voiture en participe. Donc pouvoir s'offrir un voyage qui va coûter 2, 3, 4, 5 fois moins cher en partageant son automobile en covoiturage que d'aller sur un TGV, c'est évidemment le premier bénéfice et le bénéfice le plus important, avant même donc un pseudo-rêve de possession automobile.
Être riche à vélo, c'est envisageable, c'est logique.
À vélo, c'est assez intéressant. Vous parliez tout à l'heure de la taille croissante, très rapide, du parc automobile chinois. Il y a un autre marché qui est absolument fascinant, qui est le deux roues électrique en Chine.
Ouais. On va y revenir.
Qui n'est pas favorisé par les autorités, ouais. Et on en est à 120 millions.
Vous restez avec nous tous les deux, les voisins, les voisines, bien sûr, vous nous appelez, on parle des voitures. Encore un signe extérieur de richesse, de réussite, oui ou non, 33, 1, 84, 22, 71, 71. Retour dans 3.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. À l'occasion du mondial de l'automobile, on cause bagnole. Les voitures sont-elles encore un signe extérieur de richesse et de réussite? On en discute avec nos invités. Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, un organisme de crédit à la consommation. Et Bruno Marsloff, vous êtes sociologue. Beaucoup de messages intéressants qui sont postés sur le fil Facebook pour Maman qui est au Bénin. Il nous dit, pour les hommes d'affaires, avoir une voiture, ça leur permet de gagner la confiance de leur clients ou partenaires d'affaires. On a l'impression que c'est du solide finalement. Hein. Ou encore un auditeur ou une voisine, je ne sais pas, Brenda qui est au Kenya, elle nous dit que la classe moyenne prend un prêt pour acheter une voiture et puis après l'achat de la voiture reste stationnée au garage, à la maison jusqu'à la fin du mois quand on a le moyen d'acheter de l'essence. Tout cela est-il vraiment logique? Je me pose la question. Flavien Neuvy. Bon, sur les prêts, ça c'est pareil dans de nombreux pays.
C'est partout pareil. C'est-à-dire que pour acheter une voiture, à peu près 2/3 des automobilistes font un crédit parce que sinon ils pourraient pas avancer. Tout à l'heure je disais 5 ans de salaire, mais même quelquefois 6 mois de salaire, c'est pas facile. Donc du coup, le financement est incontournable. Après, effectivement, acheter une voiture et ne pas l'utiliser parce que les prix du carburant sont très élevés, c'est vrai que ça peut être une réalité parce que les prix du carburant sont un sujet très important et c'est vrai que d'un pays à l'autre, le poids n'est pas le même et notamment dans les pays donc en développement, le prix de l'essence est très élevé.
Mais ce qui veut dire aussi que là, en dehors des problèmes environnementaux et d'engorgement des villes, quand on n'a pas les moyens d'acheter de l'essence pour la mettre dans sa voiture, là aussi on touche une autre forme de limite, hein, Bruno Marsloff.
En effet, les limites ne cessent de se multiplier. On a évoqué les limites de la pollution, on a évoqué les engorgements, les congestions, mais en effet, les limites économiques et les limites sur les énergies sont objectivement un empêchement à l'usage de la voiture. Donc, et en effet, on se trouve devant ce paradoxe d'une très belle voiture dans le garage.
Alors, et qui reste. Vous souhaitiez nous parler tout à l'heure, vous faisiez cette allusion, Bruno Marsloff, de la génération Blablacar. Qu'est-ce que c'est ?
Blablacar, c'est le nom d'une marque, hein, d'une société qui s'est créée il y a 6 ou 7 ans, une start-up qui a parié sur le covoiturage et qui aujourd'hui se développe au-delà des frontières. Ils doivent toucher une dizaine de pays en Europe, ils viennent de rentrer en Turquie et ils atteignent aujourd'hui 10 millions d'abonnés et 1 million d'abonnés tous les mois. Derrière ce signal très très fort, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. On voit que cette jeune génération, pour une part non négligeable d'entre elles, récuse le permis de conduire parce que ça ne les intéresse plus beaucoup et puis parce que il existe une autre façon d'utiliser la voiture.
À condition qu'il y en ait un autre qui ait le permis de conduire pour le covoiturage quand même.
C'est absolument. C'est... Mais on n'est pas dans une massification. Je veux dire, heureusement, il reste quelques-uns qui ont encore le permis de conduire. Puis c'est pas forcément les mêmes générations qui vont offrir des places dans leur voiture et ceux qui vont les utiliser. Mais derrière, c'est plus que la voiture. C'est la même génération qui va utiliser les services d'hôtellerie de type Airbnb, c'est-à-dire pouvoir aller dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Ou d'autres systèmes de partage. Donc c'est cette ce qu'on appelle la consommation collaborative ou la sharing economy.
Mais cette génération Blablacar, c'est l'anti-affichage réussite économique, je possède une voiture.
Je pense pas que c'est une question d'affichage, je pense que c'est une question de pragmatisme pur et simple. Je veux pouvoir consommer encore de la mobilité, je veux pouvoir me mouvoir, mais je vais trouver les solutions les plus astucieuses pour le faire tranquillement. Mais c'est ce que fait aussi la SNCF quand elle lance low cost comme Ouigo et c'est ce à quoi on assiste sur l'aérien et dans d'autres domaines. Donc la consommation de mobilité, on a eu le virus avec la voiture pendant un siècle et on a vraiment envie de bouger, mais il faut trouver des solutions plus astucieuses.
Alors cette génération Blablacar, consommation collaborative, qui a pas envie de mettre beaucoup d'argent, peut-être qu'il n'en a pas ou qui en a mais qui a pas envie de mettre de l'argent là-dedans, hein, ça peut cohabiter avec la croissance mondiale qui continue pour acheter des voitures, Flavien Neuvy?
Oui, d'abord parce que le phénomène covoiturage est plutôt un phénomène d'abord récent, qui se développe fortement, c'est vrai, mais plutôt européen pour l'instant. En même temps, je suis pas sûr que ce soit négatif pour la voiture, parce que le covoiturage se développe essentiellement sur les trajets interurbains. C'est pas les trajets de tous les jours, mais plutôt les grands déplacements à Paris. Alors si je prends le cas de la France, Paris-Lille, par exemple. Et ils vont plutôt chercher, j'ai envie de dire, piquer, entre guillemets, des clients à la SNCF. C'est ça qui est intéressant. Et puis après, le reste de la croissance pour l'industrie automobile, il faut pas se raconter d'histoire, hein. C'est dans les pays émergents que ça va se passer. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est sur un rythme de croisière et c'est pas là qu'aura lieu le gros de la croissance.
Justement, revenons vers ces pays émergents ou en développement. On disait l'Afrique, c'est toujours un 4x4 sinon rien, hein, vous nous le confirmiez. Si on regarde la Chine, l'Afrique du Sud, les États-Unis, tout ça, il y a des particularismes. Les États-Unis et l'Afrique du Sud, on continue de pouvoir frimer avec un pick-up.
Ah oui, oui, bien sûr. Alors aux États-Unis, c'est très clair, hein, ils achètent toujours, même si ça a un petit peu évolué avec notamment la crise de 2008-2009, ils achètent essentiellement des grosses voitures, des gros pick-up. Et si on prend l'exemple de la Chine, c'est plutôt des voitures de luxe, parce que la classe qui achète des voitures aujourd'hui en Chine, c'est pas la classe moyenne, c'est plutôt la classe supérieure. Et là, par contre, c'est un objet statutaire. J'ai de l'argent, j'ai réussi, donc j'achète une grosse voiture, plutôt de marque allemande, voilà, pour montrer que j'ai réussi dans la vie. Et c'est vrai qu'après, les infrastructures routières, et on parle de l'Afrique, très clairement, impactent aussi sur le choix des véhicules.
Ouais. Oui, mais alors là, dans ces cas-là, on est plus dans une démarche utilitaire. Le pick-up, est-ce que j'achète un gros pick-up pour montrer que j'en ai, ou est-ce que j'achète un gros pick-up parce que j'ai beaucoup de choses à transporter et qu'il faut que ça soit solide, etc.
C'est les deux, ça peut être les deux. En tout cas, en Afrique, c'est les deux. Aux États-Unis, c'est plutôt effectivement le fait de rouler dans des grosses voitures, parce que culturellement, on roule dans des grosses voitures aux États-Unis.
Et le reste de l'Asie, alors par exemple en Inde, on continue d'afficher beaucoup, et en même temps, il y a des voitures très pragmatiques qui se développent, très peu chères, très accessibles.
Alors, pour l'instant, l'Inde, c'est en termes de congestion, en termes de problèmes de circulation, c'est la Chine en pire. Donc ça freine beaucoup, et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça freine beaucoup le développement de l'industrie automobile, le potentiel est très important, sauf que quand il n'y a pas d'infrastructure, quand il n'y a pas de route, ben on peut pas vendre de voiture, ou en tout cas ça n'a pas de sens d'acheter une voiture parce que c'est trop compliqué au quotidien. Alors après, l'alternative, c'est le deux-roues, et en Afrique, le deux-roues est très développé, c'est vrai également en Chine, mais pour l'instant, en Inde, le marché plafonne, on va dire ça comme ça.
Et alors, oui, sur l'Inde...
Non, mais je voudrais revenir sur cette illustration quand même très étrange du développement d'une nouvelle génération de deux roues, c'est des deux roues électriques en Chine, puisqu'on parlait tout à l'heure de 120 millions d'utilisateurs des deux roues électriques en Chine, contre une volonté de la puissance publique qui voudrait favoriser la voiture électrique, une voiture électrique qui ne décolle pas vraiment en Chine, pas plus qu'ailleurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent là? Ils recherchent de l'efficacité, de la praticité, et puis un coût évidemment infiniment moindre, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils votent pour du propre. Et ça, aussi, c'est une tendance assez singulière.
Ça veut dire qu'on peut afficher finalement autre chose qu'une forme de réussite classique et de richesse. Par exemple, en mettant beaucoup d'argent dans une voiture écologique, parce qu'on sait que pour l'instant, elles sont quand même assez coûteuses, on peut dire autre chose sur soi-même.
Ah oui, bien sûr. On peut envoyer beaucoup de messages avec sa voiture. Alors effectivement, il y a le côté écologique.
Je suis un mec bien, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis enfin, quelqu'un soucieux de l'environnement.
Une fille bien.
Voilà, c'est exactement ça. Il peut y avoir aussi le fait de montrer, de rassurer. C'est quand on est un homme d'affaires, effectivement, qu'on est chef d'entreprise, si on arrive au volant d'une grosse voiture, ça veut dire qu'on a une entreprise qui marche bien et ça peut éventuellement rassurer. Donc on peut envoyer plein de messages avec sa voiture. Et à contrario, si on roule dans une très vieille voiture très abîmée, on peut aussi envoyer un message en disant « moi je ne suis pas matérialiste, c'est autre chose qui compte ». Donc on peut envoyer plein de messages.
Khalilou justement nous dit « chez nous à Touba », donc il est au Sénégal, « lorsqu'on va demander la main d'une fille en voiture, on a 110% de chances d'être accepté, pas besoin de Ferrari ou de Benz, juste une caisse voilà. ». C'est bien.
Génial.
Formulé. Revenons justement aux particularités du marché, parce qu'on se rend bien compte quand même que dans chaque pays, on a intérêt à s'afficher à chaque fois de manière différente. Par exemple, au Japon, les petites voitures qu'on appelle les...
Kikars.
C'est ça, les Kikars. Ça continue de très très bien marcher.
Oui, chaque pays en fait a une spécificité en réalité. Alors, on peut parler du Japon, on a parlé des États-Unis. Si on regarde le marché français par exemple, par rapport au marché allemand, on a une surreprésentation en France des petites voitures, des petites citadines, parce que on a des constructeurs qui sont plutôt bien placés là-dessus, sur ces modèles. Et c'est vrai que derrière un marché mondial qui est en croissance, qui marche bien, on vend toujours plus de voitures, en réalité, c'est un marché qui est très différent d'une zone géographique à l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui rend difficile le travail des constructeurs, c'est que les attentes des automobilistes sont très différentes. Et c'est pas parce que vous fabriquez une voiture qui est parfaitement adaptée au marché européen que vous allez pouvoir la vendre en Afrique ou en Asie. Parce
exemple
que...
d'un fiasco, vous en avez un.
Oh ben non, mais chaque constructeur. Alors, en fait, c'est très simple. Les constructeurs, avec le développement des différents marchés dans le monde, se sont rendus compte que l'erreur stratégique à ne pas commettre, c'est de tout décider depuis la capitale où ils sont implantés. Et c'est pour ça qu'ils ont des centres de recherche, des ingénieurs qui travaillent maintenant sur place pour coller au plus près de la demande. Donc, il faut éviter de faire des erreurs qui peuvent effectivement quelquefois être tragiques en termes de vente.
Il faut bien expliquer aussi à nos auditeurs que les voitures sont conçues vraiment de manière collaborative avec plusieurs continents, des cabinets d'ingénieurs qui travaillent à plusieurs sur plusieurs continents et qui se parlent via l'informatique.
Oui, et ça va même au-delà. Les constructeurs partagent aussi entre eux des plateformes, des moteurs, parce que ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, ils sont obligés de collaborer les uns avec les autres.
La voiture est-elle encore un signe extérieur de richesse? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec... non, on n'a pas encore Abdoulaye qui nous appelle de Dakar. Mais alors, pour les Français, pour d'autres pays aussi d'ailleurs, c'est d'abord un signe de France de s'acheter une voiture.
Alors, en France, les marques françaises représentent 56% du marché hexagonal. C'est le même niveau qu'en Allemagne. Les Japonais sont plus nationalistes, je vais le dire comme ça, en tout cas plus
plus chauvins. Les plus patriotiques, c'est les Japonais, les Allemands et les Français,
Les plus patriotiques, ce sont les Japonais. 95% des voitures vendues au Japon sont des voitures japonaises. En France, on est à 56%, en Allemagne aussi. Aux États-Unis, on est à 30% et en Chine, 28%.
Ouais, attendez, en même temps, c'est quand même les trois grands pays d'innovation sur la voiture. C'est un peu normal, non?
C'est un peu normal, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on essaye de regarder les critères d'achat, quand on demande aux automobilistes finalement, est-ce que l'endroit de fabrication de la voiture est un critère important au moment de choisir sa voiture, c'est un critère qui est très secondaire.
Et pour les Américains, moins patriotiques.
Ben oui, parce qu'en fait, le marché américain, ces dernières années, les constructeurs asiatiques, notamment japonais ou coréens, ont pris une place très importante sur le marché américain au détriment des constructeurs américains.
On a... Sur une construction locale.
Oui, absolument.
Bruno, Abdoulaye nous posait cette question, on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Abdoulaye à Dakar, qui a 29 ans, qui est étudiant et qui pose la question simple et biblique, à quand la première voiture made in Africa?
Ah, c'est compliqué. Alors, on fabrique des voitures en Afrique, déjà. Il y a des sites de production, en Afrique du Nord, par exemple, au Maroc, à Tanger, on fabrique des voitures.
En dehors de l'Afrique du Nord?
Aujourd'hui, non. Pour l'instant, pas de site de production important. Il y a des manufacturiers, des fabricants de pneus, qui fabriquent des pneus un peu partout, mais c'est pas vraiment des voitures de A à Z. Non, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les constructeurs, c'est une industrie qui mobilise tellement de capitaux, c'est tellement compliqué de fabriquer une voiture, que c'est difficile d'avoir des nouveaux constructeurs qui apparaissent et qui peuvent envahir un marché. Comme ça, il y a un constructeur malgache qui construit quelques dizaines de voitures par an, mais c'est tout à fait anecdotique.
Bruno Marsloff, alors comment, quand vous entendez Flavien Neuvy, qui évidemment roule pour la voiture, avec l'Observatoire CTLM de l'automobile, comment vous voyez s'engager la suite des événements sur les voitures, sur ces dépenses qui restent extrêmement importantes quand même? Ça reste un sacrifice financier extrêmement important pour les ménages. Je parle de la voiture des particuliers, il y a aussi les voitures de fonction dans les entreprises. Là aussi, ça reste un enjeu.
Encore une fois, la voiture est un système. La voiture a façonné le territoire, a façonné la ville, a façonné au quotidien, et elle est devenue d'une prégnance absolument phénoménale. Donc, et elle devient incontournable dans toute une série d'occurrences. Et si on reste sur le territoire français, une très large partie de la population est captive de la voiture, c'est-à-dire que n'a pas d'alternative, n'a pas le choix et doit continuer de fonctionner avec une automobile. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a des pesanteurs, il y a des difficultés qui sont liées directement aux économies des ménages, mais qui sont liées aussi à l'environnement, au territoire. Et puis il y a d'autres acteurs qui interviennent dans ce dispositif, qui sont les collectivités territoriales, les villes, etc., qui se posent des questions. Pas oublier que les dépenses liées au transport sont souvent le premier poste de dépenses des régions. Ça représente, j'ai simplement en tête le chiffre pour la communauté urbaine de Lyon, ça représente un quart du budget de la communauté urbaine de Lyon, c'est 450 millions. Donc, ces autorités, elles sont confrontées aussi à des étranglements budgétaires, donc elles doivent trouver des issues. Donc on est à ce moment tout à fait intéressant, critique, où on doit trouver des solutions. Alors elles sont d'ordre tout à fait divers. Elles sont de l'ordre du partage qu'on évoquait tout à l'heure avec l'économie collaborative. Elles sont dans l'ordre d'autres organisations de mobilité, voire de démobilité, et éviter de se déplacer dans un certain nombre d'occurrences.
On ne pourra pas tout faire à vélo quand même. Hein.
On ne pourra pas tout faire à vélo, mais on peut aussi, et c'est de plus en plus le cas, passer des commandes à distance et se faire livrer, etc.
Un certain PDG de multinationale qu'on avait reçu dans l'émission de l'agroalimentaire roule en scooter à Paris. C'est un signe, ça, très rapidement, quelques mots.
C'est certainement qu'il ne veut pas perdre de temps dans les bouchons. Il doit être pressé. Et donc, c'est le meilleur moyen, effectivement, d'arriver à l'heure à ses rendez-vous.
Donc, il a mis son chauffeur au chômage technique. Voilà. Vous restez avec nous. On aura un reportage dans quelques minutes. Ce sera juste après Little Bit More, Bossari. You inspire. Après la voiture comme signe extérieur de richesse, reportage maintenant dans un garage. Vous savez que sur près de 4000 carrossiers indépendants, eh bien, il n'y a qu'une centaine de femmes en France à travailler dans la carrosserie automobile. Portrait d'une femme carrossière en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle est en bleu de travail, tournevis à la main, en train de redresser avec un jeune employé l'aile d'une voiture bien amochée. Et tout ça sous l'œil médusé de notre reporter Charlie Dupiot.
Effectivement, on se rend pas trop compte si on a des dégâts derrière l'aile avant gauche. Donc on va démonter un petit peu, on va le déboîter, on va débrancher la prise. Est-ce que tu peux me passer peut-être un tournevis plat si tu as, s'il te plaît ? Merci. Okay, donc je te laisse le phare, comme ça tu le mets dans le coffre de la voiture. Après, on va lever un peu la voiture, Steven. Bonjour, je m'appelle donc Eglyne Badouro, j'ai 35 ans et je suis gérante de la carrosserie francilienne à Livry-Gargan. J'ai repris l'entreprise depuis 2 ans, mais j'y travaille quand même depuis 15 ans maintenant. Mon papa a été prof de carrosserie. Après lui, à 40 ans, il a décidé d'ouvrir son propre garage, dans lequel j'ai donc été bercée toute petite. Mon père a eu 2 enfants, que j'ai donc un grand frère. Donc mon père avait toujours pensé que ça serait lui qui reprendrait l'entreprise. De me voir débarquer ici et de voir que je prenais plaisir effectivement à toucher à la voiture, à comprendre, essayer de voir comment ça fonctionne. Là, il a commencé à se dire, bon, quand même, Guin, c'est pas un métier pour les femmes. Les femmes, c'est censé avoir des belles mains. Toute ta vie, regarde mes mains, tu te vois avec des mains comme ça. Mais je m'en fous d'avoir des mains pourries, cassées, les ongles. J'ai envie d'avoir aussi cette relation à la tôle comme toi, tu l'as, quoi. Ce côté magique de transformation de la matière, quoi, en fait. C'est le côté, effectivement, la voiture arrive complètement écrabouillée, esquintée et compagnie, et on la redonne nickel, super belle. Apprends-moi. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré, effectivement. Du coup, voilà, je me retrouvais avec en milieu masculin, ce qui n'était pas forcément évident au début. Par exemple, quand je voyais quelqu'un faire quelque chose que je ne connaissais pas, et là, on me disait, non, mais de toute façon, ça sert à rien que je t'apprenne, t'as rien à faire ici, c'est pas une place pour une femme. Ou alors, tu déplaces la voiture, ouais, bah fais gaffe, hein, parce que femme au volant, mort au tournant. Enfin, moi, j'en ai eu des phrases. Alors, comment je l'ai vécu ? Bah, pas bien, forcément, quand on a 18 ans et qu'on se prend tous les jours dans la tête, de toute façon, t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es une femme, ah bah, il faut peut-être se muscler un peu. Il y a eu pas mal de fois où je pleurais intérieurement de la situation, mais par contre, je laissais jamais rien transparaître. Et après, bah, la force, c'est de se dire que des personnes déjà comme ça, on va en rencontrer plein d'autres vies. Et que si on s'arrête au premier qui a parlé, bah, on fera jamais rien, on n'avancera pas. Et un jour, tu lui montreras. La patience paye.
Quel regard portent sur vous, en général, vos clients masculins ?
Vraiment, on peut dire que j'ai de tout. Ça m'arrive des fois de me retrouver seule au bureau et d'avoir des clients masculins qui passent la porte et qui me demandent bien souvent, en pensant que, comme ils voient une femme derrière un bureau, que je suis la secrétaire, me demandent s'ils peuvent parler au patron. Et quand on leur dit, bah, c'est moi, il y a un blanc. On m'a même sorti une fois, malgré que j'avais dit, bah, c'est moi. Non, mais il n'y a pas un homme dans cette entreprise. Bah non, ça sera une femme. Alors si ça vous ne convient pas, la porte est là. Oui, mais j'ai une question technique. Bah oui, mais je suis là. Si je suis patronne, c'est je connais mon métier. C'est à la base, c'est mon métier. Donc les questions techniques, c'est moi aussi. J'ai plus mes preuves à faire pour moi. Mes preuves, elles sont faites. Après, les gens d'eux-mêmes, ils s'en aperçoivent. S'ils sont pas assez intelligents pour s'en apercevoir, il y a plein de garages autour et je suis pas là pour me prendre la tête.
Mais consciemment ou pas, en fait, vous devez montrer que vous êtes compétente. Vous connaissez votre métier.
Ça, c'est clair. Évident même, et que ça soit femme ou homme. Hein. Parce que justement, les femmes, on leur a tellement inculqué aussi dans la tête que la femme, c'est pas sa place. Qu'elles aussi, des fois, sont surprises. Bon, dans le bon sens quand même, elles sont contentes. Mais je pense qu'il y en a quand même qui émettent toujours un peu la part de doute, de se dire, ouais, mais attends, peut-être qu'elle fait style de connaître, mais peut-être qu'elle y connaît rien. Je le ressens bien qu'il y ait toujours le côté un peu doute, test. Ça va pas dans la marche normale, quoi.
Alors justement, vous êtes maquillée, des yeux, vous portez des boucles d'oreilles, un collier, vous portez un jean. Alors comment on fait pour rester femme en ayant les mains dans le cambouis quand on travaille dans une carrosserie ?
Pendant longtemps, je ne l'étais pas du tout. J'ai eu une grosse période où peut-être du fait que je voulais toujours montrer ma crédibilité, je rentrais très bien dans la peau du personnage, donc zéro maquillage, les cheveux toujours attachés, très masculine, voilà. Puis il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, il y a une femme qui existe au fond de moi, qui a aussi un petit peu envie de vivre et d'exister. C'est pas parce qu'on va se maquiller un petit peu, ou même avoir des restants de vernis à ongles, que ça va changer la façon de travailler. Et puis après, je me suis dit, ça peut être aussi un atout. Quand on est en négociation, que ça soit les négociations tarifaires assurance. Donc petit à petit, j'ai commencé à me féminiser. L'effet de surprise va devenir un pouvoir. Et ça m'empêche pas de travailler, de mettre les mains effectivement dans le cambouis. Bon, après, le week-end, des fois, c'est un peu plus délicat. Quand on sort, faut bien bien nettoyer et se mettre les doigts dans l'eau de Javel pour enlever tout le gras, toute l'huile, etc. Mais bon, on y arrive.
Des voisins, c'est maintenant.
Eglyne Badouro, retenez bien ce nom, donc une femme à la tôle, ça vous inspire, ça vous réconcilie, Bruno Marsloff?
J'aime bien cette expression du rapport à la tôle. Je trouve ça assez singulier. Non, c'est très chaleureux. Je trouve ça à la fois courageux et très rigolo. Non, c'est bien.
Flavien Neuville, ceci dit, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui achètent des voitures.
Oui, alors c'est vrai que le monde de l'automobile est un monde extraordinairement masculin encore aujourd'hui, hein, du côté des professionnels. Ouais. Alors là, on a eu un très bon exemple.
On n'était pas dans le cliché, là.
Non, non, pas du tout. Et du côté des vendeurs aussi, quand vous rentrez dans une concession automobile, la plupart du temps sont des vendeurs. Alors les concessionnaires ont compris qu'il fallait féminiser un peu leur force de vente, mais ça reste encore très masculin. Et chez les constructeurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en dehors des services marketing, communication, on a du mal à voir des femmes du côté du produit. Alors ça arrive petit à petit pour une raison simple, et c'est ce que vous disiez, c'est que les femmes sont très importantes au moment d'acheter une voiture. Les femmes achètent de plus en plus de voitures et même si elles n'achètent pas de voiture seules, c'est-à-dire si c'est un couple qui vient dans une concession, l'avis de madame est incontournable. Et ça, du coup, les professionnels de l'automobile s'en sont rendus compte et ils ont bien compris que pour répondre à des attentes qui peuvent être différentes de la part des automobilistes féminines, eh ben, il peut y avoir effectivement la nécessité d'avoir en face eh ben, des femmes aussi. Et donc, c'est un univers qui est en train de se féminiser petit à petit.
Est-ce que les femmes sont sensibles à l'affichage dont on parlait, l'affichage du niveau de vie en fonction de la voiture que l'on possède? On parlait de ça pendant toute l'émission. Et pour les femmes, finalement?
Alors, c'est moins l'affichage par rapport au niveau de vie que le design de la voiture. C'est vrai que les femmes, visiblement, en tout cas dans nos études, on le constate, se déclarent plus sensibles que les hommes à un certain style de design. C'est pas forcément des grosses voitures qui font vroom vroom avec beaucoup de puissance sous le capot. C'est pas le moyen d'afficher une réussite sociale. Mais par contre, le design, le look de la voiture a une importance toute particulière au moment d'acheter une voiture.
Une voiture très lookée, c'est pas non plus la voiture qui est en bas du marché.
Ah non, pas du tout.
Non plus.
Ah non, pas du tout.
Donc,
j'ai pas dit ça. C'est simplement que c'est le look de la voiture et on a vu ces dernières années, des véhicules, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des véhicules qui ont très bien marché parce que justement, ils ont su, certains modèles, toucher une clientèle féminine qui était particulièrement attentive au design.
Donc, ça veut dire que c'est pris en compte dès la conception ?
Oui, c'est-à-dire qu'ils se disent, les constructeurs, au moment où ils font un produit ou ils pensent un produit, les designers se disent, ce modèle-là sera peut-être plus côté féminin, attirera plus une clientèle féminine.
Il y a même eu un modèle de voiture, dont on ne citera pas la marque, mais qui avait associé son nom à une célèbre styliste, hein, qui avait soi-disant redessiné l'intérieur, la couleur des fauteuils, etc., des sièges.
Oui, alors je pense que oui, absolument, mais c'est pas forcément le bon argument. Le bon argument, c'est vraiment le coup de cœur féminin au moment d'acheter la voiture.
Qui le comprend, le coup de cœur féminin?
Bon, on a longtemps assisté jusqu'aux années 60 à une représentation de la voiture affichée dans la communication avec des femmes à côté. C'était quand même
c'était le must. Et maintenant c'est les femmes au volant.
Bon, maintenant on les voit au volant, on les voit tournicoter autour de la voiture.
Monde change. En tout cas, merci à vous d'être venu dans l'émission 7 milliards de voisins. On parlait de la voiture à l'occasion du Mondial de l'Automobile. Flavien Devy, vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM de l'Automobile, et Bruno Marsloff, sociologue spécialiste de la mobilité, directeur du cabinet Chronos. Merci à vous, les voisins, pour vos témoignages. Merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Laurie Plisson, pour toutes vos réactions. Bien sûr, vous continuez de nous écrire également sur notre boîte mail, si vous le souhaitez, 7milliards@rfi.fr. Et puis l'émission est disponible en libre service sur la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion de la Journée internationale des filles, qui est prévue samedi, on parlera demain des violences subies par les filles à l'école. Dans certains pays, harcèlement sexuel et violence psychologique, véritable frein à l'éducation. Je recevrai entre autres une jeune togolaise de 16 ans, présidente d'association qui se bat pour les droits des filles à l'école. À demain.